La raison pour laquelle on aime, une des dizaines de raisons pour lesquelles on aime ce pays, c'est qu'il y a autant à voir en l'air qu'au sol. Les nuages dans le Vercors sont réellement de merveilleux nuages. C'est vraiment incroyable. Ce modelage incessant, différent, gigantesque, ou millimétrique, quand on a des petits lenticulaires au fond, comme ça, c'est, donc, tout est très beau. Tout est très beau.
CO2, mon amour.
Tu vois, c'est ça, t'as cette sensation que cette masse de nuages est arrivée sud-est, comme ça, et qu'elle a explosé contre la paroi.
Ah oui, sud.
Bon. Et ça, c'est très fréquent. Et ça grimpe très haut, ensuite, dans l'azur. Très haut.
Denis Chessou, sur France Inter.
Et oui, on avait besoin de débuter cette émission avec un peu de paroles de nature, donc la voix de Daniel Pénac, hein, que vous écouterez pendant un reportage donc chez lui dans le Vercors, donc qui va prendre une bonne partie de l'émission. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans CO2 Mon Amour. Cette émission, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement, avec aujourd'hui Pierre Faucillon à la technique, et assisté de Camille Blanès, eh bien je la salue cette année, c'est Marie-Hélène Fauquet qui réalise l'émission. Ah oui, que ça va commencer par une petite humeur. Alors, faut comprendre aussi, hein. Vous rentrez de 15 jours de vacances, votre première réunion se fait avec de sympathiques chasseurs qui ont leur ronde serviette à l'Elysée. Chasseurs qui, en France, tirent 64 espèces différentes d'oiseaux, dont 20 sur la liste rouge, alors que vous avez une moyenne de 14 chassables en Europe. Et ils veulent en tuer encore plus, parce que c'est nous les écologistes de terrain, et puis c'est nous qu'on fait voter la ruralité dans le bon sens. Alors rouler, tirer jeunesse avec un permis de tuer à moitié prix, open bar sur la nature avec un silencieux pour faire moins de bruit. Ah bah oui, parce qu'on est écolo. Alors bien sûr, on a beau être ministre d'État, troisième du gouvernement, là c'est la cartouche qui fait déborder la gypsière à emmerdement. On soulève les dossiers et alors on tombe sur 6 EPR, des interdictions de 5 nicotinoïdes. Alors ça c'est bien, mais accompagné d'une pelletée de dérogations à venir, on voit d'autres CETA climaticides se profiler, une mine d'or en Guyane, oulalalala, lobby or not lobby, comme il disait William, des cerveaux lobotomisés. Alors prolonger ses vacances, ne plus respirer l'air pollué du boulevard Saint-Germain, accompagner ses enfants à l'école, retrouver la mer en évitant l'amertume, eh, ça se comprend.
Je sais que seul je n'y arriverai pas. J'ai un peu d'influence, j'ai pas de pouvoir. J'ai pas forcément de solution. C'est pas l'énergie qui me manque. C'est un travail collégial, c'est un travail collectif. On se fixe des objectifs, mais on n'en a pas les moyens parce qu'avec les contraintes budgétaires, on sait très bien à l'avance que les objectifs que l'on se fixe, on ne pourra pas les réaliser.
Alors à quoi bon quand on n'a pas de relais politique ? C'est quoi le nouveau monde ? Ah bah c'est numériser l'ancien, hein, c'est numériser tout ce qui bouge, en consommant bon des terres rares avec un peu plus de consommation électrique, mais ça c'est un détail. Et c'est quoi le nouveau monde ? Bah c'est souvent d'ailleurs l'ancien monde avec un peu de cosmétique, une nouvelle langue et de la disruption quand même en plus. C'est aussi être réellement excellent quand il s'agit de parler à 10, 20 ans du climat, de la biodiversité au monde entier. Et puis en même temps, c'est soutenir chez soi Europa City, Center Park en Isère, c'est dénoyauter la loi hydrocarbures, raboter les normes environnementales, regarder un peu ailleurs quand la maison et la terre se transforment en barbecue des géants. Vous me dites, faut se relier au vivant, ça se numérise le vivant ? Oui, c'est en train, monsieur le Président. C'est coté en bourse ? Ah, bientôt, on y travaille, monsieur le ministre des Finances. Edith, vous pouvez m'expliquer avec une image simple ce que c'est ? Eh bien, en fait, monsieur le ministre de l'Agriculture, si vous voulez, la nature, c'est un prélèvement à la source permanent. Ah, bah là, je comprends quand même beaucoup mieux. Oui, mais en fait, elle n'a pas forcément le temps de se reconstituer vraiment. Bah, attendez, hein, les dossiers annexes, on verra plus tard. Alors, évidemment, chez Stéphane Travers, à la FNSEA, chez les éleveurs de brebis, les nucléocrates croyants et pratiquants, les climato-sceptiques, Monsanto, etc., on déboucha discrètement le champagne, mais surtout pas bio, pour fêter cela. L'icône avait chu, tombé du parapente, bon débarras. Qui pouvait croire qu'on peut en 15 mois et même en 5 ans inverser les gaz de ce jumbo jet lancé à toute allure dans l'atmosphère ? Surtout quand l'équipage de l'aéronef, lui-même fasciné par le rendement et la performance de la machine, ne songe qu'à engranger les records.
L'Europe ne gagnera que si l'Afrique gagne. Est-ce que nous nous sommes mis en situation de passer un contrat d'avenir avec l'Afrique? La réponse est non. Où est passée la taxe sur les transactions financières, qui était le minima pour tenter de donner les moyens à l'Afrique de s'adapter, d'évoluer? Est-ce que nous ne nous voilons pas la face sur le fait qu'une partie des migrants qui viennent frapper aux portes de l'Europe, une partie, c'est pour des raisons climatiques?
Au mois de mai dernier, je vous le disais en début d'émission, la question n'était pas de savoir si Hulot allait démissionner, mais c'était surtout quand. Tiens, un peu de crevettes et de poissons dans le plastique que je mange là. Mais qu'est-ce qu'ils font là ces intrus, ces crevettes et des poissons dans le plastique? Ça va pas du tout. Les cornets de glace se vendent par millions, les affaires tournent, mais regardez comme on est responsable et développement durable. Sauvé qu'on est, on interdit les pailles. Alors il a deux solutions le monde. Agir, et des milliers de solutions véritablement existent. Bonnes pour l'entreprise, pour l'économie et même pour le pays bel sacré, qui est l'art de compter ce que l'on gagne et jamais ce que l'on doit, ou bien alors on lâche prise, mais ça va pas être notre genre. Alors lâcher Notre-Dame-des-Landes pour avaler le reste, vous savez, quand on aime la nature, on aime aussi les couleuvres, et donc on arrête de les avaler. Et puis ça se digère à peu près aussi bien que trois repas de suite chez KFC. Non, l'environnement, c'est vrai que ça va pas de soi en France. Oui, l'écologie est un sport de combat. Alors le nouveau monde, bah oui, chiche, ce serait quoi? Bah ce serait déjà garder celui-là en état de marche. Alors c'est vrai qu'en fait Nicolas Hulot nous a fait du bien sur France Inter parce que d'abord il a parlé sans phare, sans éléments de langage, et puis il y avait quand même, on va le remercier, hein, cette reconnaissance peut-être un petit peu inconsciente parce que il avait commencé sa carrière médiatique en testant des motos donc sur France Inter, la poignée dans le coin, c'était chez Patrice Blanc-Francard, et là il a terminé sa carrière politique chez nous dans sa maison. Ça nous a lancé la grille d'Inter, mais alors en feu d'artifice, et comme on n'a pas beaucoup d'argent, c'est vrai que ça vaut quand même toutes les campagnes de pub. Bonjour cher Frédéric Noé.
Bonjour. Denis Chessou.
Bonjour Arnaud Gossement.
Bonjour Denis.
Voilà, donc là un petit peu pour faire un peu d'ulologie, alors peut-être pas pour redire ce qui a été dit, mouliner vraiment au kilomètre partout sur tous les médias, mais peut-être aussi une anecdote qui relève au mois de juillet dernier, quand vous aviez vous aussi rencontré donc Nicolas Hulot.
J'avais rencontré Nicolas Hulot et le gratin des chefs d'entreprise du CAC 40 qui avaient signé de concert tous ensemble une charte d'engagement pour la biodiversité, la charte Act for Nature, devant les représentants de toutes les ONG naturalistes environnementales françaises. Et donc Nicolas Hulot était là et il a dit, avec quelques trémolos dans la voix, joli discours, il a dit « Grâce à vous, je me sens moins seul parce que vous n'imaginez pas au Conseil des ministres à quel point je me sens seul. Et vous, PDG de grands groupes, le fait que vous vous engagiez devant l'opinion, devant les réseaux sociaux, devant les ONG, avec des engagements qui sont parfois intéressants, prouve que voilà, les choses ont diffusé, ont infusé, qu'elles sont devenues virales, que plus personne ne peut plus ne pas parler de biodiversité. » Et lui avait répondu le PDG de Michelin, Jean-Dominique Sénard, qui se trouvait également le président d'Entreprise pour Environnement, qui lui avait dit « Nous sommes engagés, nous faisons un pas, mais vous, l'État, fixez-nous un cap. On compte sur vous, l'État, pour que loi soit là, pour que ce cap soit bien précis, soit bien dans notre tête de chef d'entreprise. »
Et c'est là que ça flotte un peu quand même.
Et
hein
c'est là que ça flotte un peu. Et moi, ça m'a ramené à tous ces débats que vous et moi, Denis, avions animés en son temps sur la taxe carbone. Où moi, je me souviens, pendant des années, j'ai eu des transporteurs routiers, j'ai eu des logisticiens, des chefs de grandes entreprises qui étaient prêts à la taxe carbone, qui la voulaient d'ailleurs, parce que pour eux, c'était une façon de se préparer à l'inéluctable de toute façon, par exemple, à changer de motorisation. Et puis, face à eux, on a eu une Ségolène Royal qui a tout cassé, qui a tout abîmé. Et les chefs d'entreprise me disaient, mais il n'y a plus que du flou.
C'est-à-dire qu'on s'est écrasé devant les bonnets rouges. C'était ça, quoi, l'idée.
Ouais, mais voilà.
C'est un peu plus complexe que ça.
Sauf qu'elle n'a pas rempli son rôle de politique, était de fixer un cap et surtout de le rendre visible auprès des chefs d'entreprise. Enfin, voilà ce que je retiens, moi, ce que m'a évoqué l'aveu de...
Alors, Arnaud Gossement, donc avocat en droit de l'environnement, donc vous suivez ça depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'il y a quand même une question qui est assez fondamentale. Progrès écologique, est-ce compatible avec le libéralisme? C'est ça. Ça a été redit encore ce matin, donc chez nos amis dont on n'arrête pas l'écho, etc. On en a beaucoup parlé, mais on est au cœur du sujet, là.
Pour moi, Nicolas Hulot a posé deux questions sur France Inter. La première, c'est la question démocratique. Vous avez très bien résumé ça avec la formule lobby or not lobby. On parle beaucoup des lobbies depuis sa démission. Et c'est un sujet débat à part entière. Et la deuxième question qu'il a posée, que Frédéric Denré, en fait, a déjà traité dans son intervention, c'est la question économique. Je ferai juste un reproche à Nicolas Hulot, c'est qu'il nous laisse avec une impasse. Il nous dit d'un côté, le libéralisme économique ne correspond pas au progrès écologique, l'écologie n'est pas soluble dans le libéralisme, soit, mais en même temps, l'État non plus. Ça marche pas.
C'est désespérant.
Et la réponse, ça serait un peu une réponse de il faut éteindre la lumière quand on quitte la pièce et couper l'eau. Ce qui est important, mais les comportements individuels ne permettront pas à eux seuls, je pense, de répondre à la crise écologique. Donc ils nous laissent avec ce débat, avec cette impasse, et c'est un peu ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que ce qui est porteur d'espoir, notamment, c'est ce que tu viens de dire, Frédéric, c'est la capacité en fait du monde économique à se saisir de la question. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'écologie sorte d'une forme d'anticapitalisme un peu caricatural, parce que le mot capitaliste lui-même mériterait d'être mieux défini. Et le jour, effectivement, où l'État lui-même sera convaincu que le secteur privé peut faire quelque chose d'intelligent et où l'opinion publique se dira que les entreprises sont un levier très puissant de transformation, on aura considérablement avancé. Moi, je ne pense pas que ce soit du greenwashing quand des chefs d'entreprise s'engagent sur la biodiversité. Et au contraire, ils créent l'instrument de leur propre surveillance. On peut de cette manière-là ensuite leur dire, au fait, tu t'es engagé à ça, tu as signé un contrat, tu dois le respecter. Ça me paraît porteur d'espoir. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Nicolas Hulot n'y croit pas à ça. Et en même temps, ce que tu viens de dire est intéressant, puisque lorsqu'il a fait un discours lors de cette signature, il a au contraire été content que les chefs d'entreprise s'engagent. Voilà, c'est un peu les paradoxes du personnage.
Il y avait Bertrand Piccard qui disait aussi que le jour où vous gagnez de l'argent en faisant de l'écologie, ça marche.
Mais bien sûr, évidemment, alors c'est l'aspect...
Il y a des gens que ça heurte, hein. Bon, d'accord, mais c'est...
Ouais, mais là on n'a plus le temps franchement de faire de la morale. Ça fait des années qu'on fait des leçons de morale, ça ne marche pas. Ça fait des années qu'on attend tout de l'État. On a l'impression d'ailleurs que depuis la démission de Nicolas Hulot, c'est foutu, c'est fini, c'est l'apocalypse. Non, pourtant Dieu sait si j'adore ce personnage qui a rendu des services et qui continuera d'en rendre de très grands services pour l'écologie, mais... Tout ne dépend pas de l'État, et sans faire mon libéral primaire, je pense qu'il faut répartir les rôles. L'État doit fixer le cap, ça a été très bien dit, et les entreprises, moi je travaille avec des entreprises, elles ont un rôle puissant à jouer, et porteur d'espoir.
Alors Frédéric Danhé, aussi, c'est vrai que très souvent on nous a dit, oui, alors ça repose sur les collectivités, toute cette affaire-là, peut-être aussi une façon aussi pour l'État de se dédouaner, non ou pas ?
Ah bah évidemment, à force de dire qu'il n'y a que les petits gestes, que éteindre la lumière en sortant, à force de dire que c'est le petit colibri qui va régler le monde, on en oublie que certes c'est bien, mais sans le rôle de l'État, il n'y a pas d'effet de masse, il n'y a pas d'effet de changement.
Alors les collectivités, c'est quand même un gros colibri quand même.
C'est un gros colibri, oui, mais si l'État n'est pas là derrière, encore une fois, pour fixer le cap, s'il n'y a pas aussi ce partenariat, d'une certaine façon, ce partage des tâches avec le monde économique, on n'avancera pas. Il faut les deux, c'est pas seulement la base, hein. Effectivement, il y a plein d'initiatives locales, et je vais en parler, mais il y a aussi l'État. Et ça doit se rejoindre à un moment ou à un autre,
Alors justement, si on va sur le bassin d'Arcachon, si on va du côté de la Gironde, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qu'on a pu constater ?
Ah bah il y a des choses qui se passent. Le préfet de Gironde a refusé de signer ce qui ne se fait jamais, le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale, document d'urbanisme, document de planification de la ville de Lesches-Cap-Ferry. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que, sous prétexte de construction et de protection des portions de côte appartenant aux villas de très très grosses fortunes et de quelques star people qui prennent toute l'écologie, eh bien on ne tenait pas assez compte de l'érosion des côtes, donc du réchauffement climatique, donc de l'intérêt général. Et c'est la première fois en France qu'un préfet refuse de signer ces documents qui engagent quand même les communes qui auront une influence sur les permis de construire et l'aménagement du territoire. Et face à ça, on a la commune de Lacanau, dont le PLU, le plan local d'urbanisme, a décidé de geler tout urbanisme sur la côte, de déclassifier des zones qui avaient été classées en A urbanisées, en zone agricole, voire en milieu naturel. On rend des sols à la nature. Pourquoi ? Parce qu'ils protègent, ils pourraient protéger les côtes, les hommes, des assauts de la mer. Ce qui veut dire en creux, et je termine là, que c'est une ville qui accepte l'idée de reculer parce qu'elle a intégré le réchauffement climatique. Et là, le préfet a signé dès demain. Donc les choses avancent par le rôle, là pour le coup, d'un représentant de l'État qui fait appliquer la loi.
Arnaud Gossemann, le macronisme souhaite concilier, on va dire, d'un côté le laisser-faire, de l'autre côté l'écologie. Est-ce qu'on est dans un oxymore politique avec ça ?
Juste avant de vous répondre, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Frédéric Danhé. Oui. Nicolas Hulot s'en va au moment où il s'apprêtait à signer un texte qui va considérablement renforcer les pouvoirs de police environnementale des préfets. Oui. Grâce à la Ligue pour la protection des oiseaux qui s'est battue en justice et qui a obtenu que l'État sorte un décret d'application attendu depuis 8 ans, un texte majeur qui va permettre aux préfets de renforcer la protection des habitats naturels, Nicolas Hulot s'apprêtait à prendre un texte extrêmement important pour la biodiversité. C'est l'un des paradoxes de cette démission également. Pour en revenir à la possibilité de concilier la pensée du président de la République avec l'écologie, je fais partie de ceux qui pensent que oui, c'est possible, dès l'instant où je n'attends pas tout d'Emmanuel Macron. Je ne pense pas que ça soit un Jupiter, je ne pense pas non plus que ça soit un ennemi. Je pense qu'il y a plusieurs forces dans la société qui avancent. Et effectivement, vous en parlerez peut-être, mais aujourd'hui, si on avait une personnalité comme Daniel Cohn-Bendit, pas forcément lui, mais quelqu'un comme lui, je pense qu'effectivement, on pourrait faire des choses intéressantes.
C'est-à-dire un libéral libertaire.
Oui, c'est un libéral libertaire. On ne va pas lui reprocher de ne pas croire en l'écologie. Il s'est quand même battu depuis très longtemps et avec succès, notamment au Parlement européen. Effectivement, c'est un libéral. C'est aussi quelqu'un qui a soutenu Emmanuel Macron. Et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit prêt à s'écraser.
S'il a un rôle à ce moment-là de vice-premier ministre, que souhaitait d'ailleurs aussi un jour Nicolas Hulot, et non pas un rôle de chef d'orchestre d'administration, parce que ça ne va pas correspondre à son caractère.
Il l'a dit lui-même, il n'est pas fait pour diriger une administration. Donc si vous remplacez Hulot par un autre nom, ça ne va pas marcher. À l'inverse, si vous en faites un homme d'orchestre, si vous en faites un moteur de l'action gouvernementale, c'est-à-dire ce fameux vice-premier ministre, que Nicolas Hulot, d'ailleurs, en 2006, appelait de ses voeux en disant que le ministre de l'écologie seul ne pouvait pas changer les choses. Il faut effectivement changer nos institutions également.
Alors restez avec nous et dans quelques instants, vous offrir alors une grande bouffée de nature, parce que CO2 mon amour, oui, c'est du décryptage d'actualité, mais c'est aussi de la nature. Et ça va être avec Daniel Pénac, l'écrivain que vous connaissez, que vous aimez, chez lui, dans le Vercors. Après qui ? Ah, cette femme !
Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you.
Que respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, le petit bonhomme, maintenant, il a 32 ans, c'est comme ça. À l'époque, je faisais travailler mes enfants, c'était formidable. Et oui, c'est comme ça, sans salaire, sans rien du tout, c'était dément. Bon, Daniel Pénac, j'ai dit.
Ah, allez, c'est bien, allez, très bien, c'est parti.
Alors là, Daniel Pénac, on a un rituel quand même.
Hop. Oui, c'est d'apporter le pain rassis aux chevaux.
Ils savent qu'ils ont un voisin écrivain, non ? Ça, ils savent pas les chevaux.
Oui, ça lit à peine, j'ai essayé.
T'as essayé, oui. Alors, cher Daniel Pénac, on est chez vous sur ce Vercors assez incroyable, c'est-à-dire on parle de citadelle, mais à juste titre, hein, citadelle de calcaire. On parle d'un grand vaisseau, comme ça, suspendu dans les airs. Et c'est là que vous avez planté, je veux dire, votre tente. Enfin, une tente qu'on appelle la grosse, hein, quand même. C'est une ancienne ferme depuis 25 ans. Et alors là, on sait qu'on est dans le Vercors.
On sait qu'on est dans le Vercors parce qu'on voit le Cialet. Le Cialet, c'est un... Tiens, viens voir. C'est un effondrement de terrain.
Oui.
Une calcaire.
Hop là, ça y est.
Et là, on a une grotte dans laquelle, évidemment, en 40 ont planté des armes.
Oui.
Et qu'on a effondré au fond pour qu'elle ne soit pas dangereuse pour les gosses.
Et c'est donc sur ce plateau, on va dire solitaire, hein, donc du Vercors, dans ce département de la Drôme, que Daniel Pénac a planté donc un bout de sa vie avec sa femme, ça fait plus d'une trentaine d'années. Donc nous sommes dans la partie drômoise, hein, donc du Vercors, à 1100 mètres d'altitude, sur la commune que l'on connaît évidemment et que l'on visite, qui est celle de Vassieu en Vercors. Et là-bas, quand l'air est immobile, et les gens appellent ça la veille, car derrière arrive souvent un ciel parfois beau, mais aussi parfois compliqué. Ça fait vraiment le charme de ce plateau. On y reviendra, ce n'est pas d'ailleurs forcément un plateau quand on est dessus. Et donc, on va découvrir cet écrivain qui a une sensibilité très très forte à la nature et voir avec lui, donc avec Daniel Pénac, qui a sorti ce formidable livre qui s'appelle « Mon frère » chez Gallimard, qui est un hommage d'ailleurs à Bernard, donc son grand frère bienveillant, qui lui a donné confiance, hein, qui a donné aussi le goût de la lecture. Donc, il avait une relation très très forte. Et bah oui, son frère aussi connaissait ce plateau, donc ce frère. Et voir comment est né ce choix du Vercors, Daniel Pénac, dans ce département de la Drôme, dans le Vercors.
J'y suis arrivé par atavisme d'abord, parce que quand j'étais gosse à la Colle-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, on allait avec mon frère Bernard promener les chiens au col de Vence, c'est-à-dire sur des plateaux qui ressemblent fort à celui-ci.
Oui.
Et on y trouvait une telle paix que je lui avais dit, moi, quand je serai grand, j'habiterai un plateau. Et puis le hasard a fait que dans les années 84-85, alors que j'avais besoin de m'isoler pour travailler, parce qu'ici, évidemment, il n'y a pas de ville.
Non. Moins de 60-80 km.
Oui, 75, oui. Il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. J'ai acheté la grosse à mon copain Robert. J'ai fait très attention, je ne lui ai acheté que la maison d'habitation.
Oui.
Ni la grange, ni un centimètre carré de terrain. Parce que ça, c'est
non, on rigole pas, là.
L'outil de travail des cultivateurs.
Alors, il y avait aussi quand même le fait qu'à la Colle-sur-Loup, on s'est mis urbanisé.
Alors, il y a aussi autre chose, c'est que la Colle-sur-Loup a perdu son caractère de village. Il a perdu ses paysans, il a perdu ses petits commerces qui étaient directement issus de la paysannerie. C'est-à-dire que c'était les paysans eux-mêmes qui venaient, qui avaient une petite échoppe et qui vendaient leurs légumes et leurs fruits dans les rues du village. Donc, elle s'est mise à ressembler à l'imagerie qu'on a aujourd'hui de la Côte d'Azur, c'est-à-dire des piscines absolument partout qui ressemblent, quand on vu d'avion, à des crachats bleus propres, comme ça, et une urbanisation absolument démente qui fait que de la Colle-sur-Loup à Nice, en passant par Cagnes-sur-Mer, il n'y a plus aucun espace, il n'y a plus que c'est une espèce de grand lâche tissu urbain comme ça.
On a verticalisé le béton.
Or, quand j'étais enfant, j'habitais à Savigny-sur-Orge. Là aussi, une petite maison avec un jardin. Et là, on a horizontalisé le béton, c'est-à-dire que l'autoroute est passée à la porte de la maison.
Ah, oui.
Donc j'ai été chassé deux fois de lieux que j'aimais par la simple évolution de la société.
Le potager, les groseilles et macros.
Et donc, terminé. Voilà, je me suis dit, bon, où aller ? Sur la Lune. Et donc, en arrivant ici en 84, je me suis dit, ça y est, je suis chez moi. Et quand Robert m'a montré la grosse et que j'ai acheté, j'ai essayé, ça y est, c'est ici, et ce ne sera nulle part ailleurs, plus jamais. Mais, alors évidemment, il y a quelques inconvénients, comme le Vercors est un massif calcaire, il fabrique des cialets, c'est-à-dire des effondrements. Notre grosse risque d'être avalée par le Vercors lui-même, avec nous ou sans nous dedans.
Et alors là, évidemment, que le chef de bande ici, c'est quand même le vent.
C'est lui qui commande, il n'y a pas de doute. Et c'est des parcours intéressants historiquement. parce que d'ici à Saint-Martin, c'est-à-dire sur une profondeur de 20 km à peu près, les Allemands, en l'occurrence d'ailleurs c'était des Ukrainiens, des nazis...
qui sont arrivés en plein heure.
Qui ont atterri là, ce que vous voyez, ont massacré tout le monde et ont fait sauter absolument toutes les maisons jusqu'à Saint-Martin, sauf celles qui leur servaient de commandantour, de munitions, etc. En revanche, la Wehrmacht qui arrivait, elle, de Villard-de-Lans, de l'autre côté, jusqu'au même Saint-Martin, n'avait pratiquement aucune maison ancienne qui ait été dynamitée. C'est-à-dire que architecturalement, le Vercors de la reconstruction va d'ici jusqu'à Saint-Martin. Oui. Et de Saint-Martin à Villars, c'est le Vercors d'avant-guerre. Alors ça, c'est une promenade que j'aime beaucoup faire, que je fais assez souvent. Je veux dire, aller dans la forêt en partant de la Grosse à pied, me retourner toujours ici, cette vue sur le nord dont je ne me lasse pas.
Et puis il y a quand même ce gardien des hauteurs qui est le grand Raymond.
Il y a le Raymond là-haut, oui.
Comment vous l'appelez, Raymond, vous
l'appelez? Le gros Raymond.
Le gros Raymond,
oui, on change un peu. Voilà. De toute façon, ici, tout le monde a un surnom. Les paysans se surnomment tous.
Donc les montagnes aussi.
Donc les montagnes aussi. Donc, pour moi, c'est le gros Raymond.
Alors c'est quand même un plateau incroyable. Alors quand on parle de plateau ici, en fait, on se trompe lourdement parce que oui, on est en hauteur, mais vous le disiez, on s'est fait de gorges, de cialets, de forêts, de bosses.
En fait, c'est un morceau de calcaire, quoi, en gros de 60 km de long sur 30 de large. Et nous sommes, la grosse, elle est à 1100 mètres. C'est le sud. Hein. Il y en a d'autres dans le nord.
Parce qu'ici, on est vraiment dans la Drôme, hein, on le rappelle.
Ah, oui.
C'est la partie drômoise.
Oui, là où Villard-de-Lans, c'est dans l'Isère.
Ouais. Alors, si on se retourne, on a bien sûr le col du Rousset qui est juste derrière. Voilà, et là, c'est là. Vraiment la barrière climatique. C'est-à-dire qu'on passe, on attaque la Méditerranée pour aller sur le Diwa. Quoi.
Je me trouve ici à Pâques. Et pendant 6 semaines, un nuage s'est posé sur le rocher, sur le Vercors. Il est resté 6 semaines. Et dès qu'on sortait par le tunnel du Rousset, dès qu'on sortait, c'était le beau temps. Tout autour, il faisait beau.
Oui.
Et il y avait ce chapeau qui s'était posé sur le Vercors. On était tous furax. Il n'y avait absolument rien à faire pour le faire dégager.
Alors, votre rapport à la nature, il ne s'est pas forcément construit ici, parce que vous avez été gamin quand même dans les coins où il y avait de la nature. Mais en tout cas, il n'a pu que se renforcer. Parce que qu'est-ce que l'on vient chercher ici? Vous écrivez très joliment que venir ici à 1100 mètres d'altitude, c'est alimenter le songe, c'est ouvrir la porte au conte, c'est parler avec le vent, c'est écouter la nuit, c'est prendre langue avec les bêtes, nommer les nuages, les étoiles, les herbes, que sais-je.
Donc... Parce que quand on est avec des enfants, quand on est seul, c'est plus simple que ça. Quand on est seul, on vient pour la solitude et le silence. La solitude est presque absolue. Le silence, si on accepte les oiseaux, est total. Bon, de temps en temps, il y a des tracteurs. Mais quand nous étions plus jeunes, ma femme et moi, donc ma fille venait avec des copains, et le passage que vous venez de lire c'était les activités qu'on avait avec les gosses, quoi. Leur montrer, en effet, les arbres, les animaux, la nature, les étoiles, donner des noms à tout ce qui en a, que nous connaissions. Et surtout, en hiver, ce paysage que vous voyez n'a pas la même forme.
Non.
Ça, vous connaissez ce phénomène.
Tout est lissé.
Tout est lissé, et surtout, les reliefs ne sont plus les mêmes.
Voilà.
En fonction des vents dominants, les reliefs changent. Au point qu'on peut se perdre, même nous. Nous nous sommes perdus plusieurs fois. On la voit, la grosse, d'ici.
Oui, alors que vous étiez à 500 mètres.
Voilà, on est à 500 mètres de chez nous. Il nous est arrivé de ne pas trouver la maison. Et donc, quand on a des enfants, il fallait faire attention à ça.
Oui.
Un peu plus haut, je vais vous montrer. Il y a une petite observatoire que Dédé et ses frères ont construit, qui est un observatoire à bestioles. On y monte, on voit des cerfs, des sangliers. En tout cas, j'y suis allé avec des enfants. On y a passé des nuits. C'est une cabane perchée dans les arbres. Ils adorent. Et on a vu, en effet, le brame du cerf. On a vu les sangliers manger des noix. Et les sangliers mangent les noix en les cassant avec une distinction aristocratique. Ils bouffent l'intérieur de la noix et ne... cassent pas la coquille, ils la font exploser en deux Et ils se débrouillent pour manger l'intérieur. Et les coquilles restent pleines. Les gosses, évidemment, ça les enchante. Jusqu'à 11 ans, 10, 11 ans, 12 ans. Et puis quand le cresson pousse autour de la fontaine, c'est fini. Il passe à l'adolescence. C'est normal. Et on se retrouve comme deux vieux, tout seuls. En attendant de faire avec leurs propres enfants. En attendant de refaire des courses au trésor, des promenades avec leurs enfants.
Alors, faut juste rappeler ici que le problème, quand même, c'est l'eau, parce qu'on est sur du calcaire. Ben non, c'est ça, c'est que vous avez une goutte d'eau qui tombe, je crois qu'il faut 24 heures pour se retrouver dans la Bourne, ouais. Donc ça descend très vite, quoi.
Alors, du coup, une des premières choses que j'ai faites en achetant la grosse, c'est de réhabiliter la citerne,
ouais.
Qui fait 70 000 litres d'eau, et qui est relativement vite remplie, parce que toutes nos gouttières convergent, quoi.
C'est bien. Soit on a des ânes qui arrivent, voilà, et puis après il y a les gens qui sont là. Chemin pédestre, où nous sommes.
Oui, on a des Stevenson qui passent.
Ah bah oui. Ah, alors là, on va dans la cabane à Dédé. Stop. Oh là là, que la terre est basse. Hop là. Hop.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Father John Misty sur France Inter dans CO2 Mon Amour, avec donc choisi par Thierry Dupin, notre programmateur, et nous poursuivons cette balade donc chez lui, chez Daniel Pénac. Et là, on va se retrouver, alors là, vraiment plein sud de ce grand navire de calcaire qu'est le Vercors, avec le col de Vassieux. Voilà, on y est avec Pénac. Alors là, on a les pieds gentiment dans le vide et on est sur le côté Méditerranée 1. On voit, c'est dit, des lieux, donc c'est le Diwa.
Avec le chemin muletier ici, pour descendre, par lequel, en hiver, les gens de Vassieux descendaient, ils descendaient par ici. Et pas de route, hein. La route là-bas n'existait pas.
Non.
Faut imaginer que nous sommes, disons, des aigles. Nous sommes deux aigles.
Mais nous sommes deux aigles.
Un d'aigle qui émarge à France Inter.
Oui, un autre chez Gallimard.
L'autre qui est sorti de sa taverne où il n'arrive pas à écrire. Et ils sont en train de planer au-dessus d'un paysage assez multicolore, hein, où on a de la lavande, du triticale probablement, en train de pousser, du blé. Beaucoup de forêts sur des petites collines comme ça. Et tout au bout, la très jolie ville protestante de Die.
C'est ça.
Et là-dedans, on plane, vous ne nous voyez pas, mais nous sommes soulevés par des courants ascendants. D'ailleurs, Denis et moi sommes toujours soulevés par des courants ascendants.
On ne sait pas très bien. Et alors, juste en face, vous ne le savez peut-être pas, dans le creux. Donc, ce qui veut dire que là, on a déjà le goût du midi.
Ah oui, oui, oui.
Pile poil, là, ça coûte de l'autre côté.
Là, on passe dans le midi.
Ah oui.
Et ce paysage-là est magnifique.
Alors, c'est pas par là, évidemment, que les maquisards se sont fait coincer, hein, mais
non,
c'est de l'autre.
Oui.
Et c'est vrai que quand on se retourne, on se dit que tous ces jeunes qui étaient là, ils étaient 4000 en juin 44, étaient en fait des assaillants potentiels, ils sont devenus des assiégés.
Oui, oui.
C'était ça.
Parce qu'ils ont été abandonnés. La stratégie, les abandonnés. On peut parler de trahison. C'est aussi un changement de stratégie. Les gaullistes ont décidé de ne plus faire du Vercors un abcès de fixation. Et du coup, on n'a pas armé le maquis suffisamment et les gens se sont fait massacrer.
Alors, c'est quand même assez dingue parce que d'un côté, côté Grenoble, on a Stendhal. Ici, côté sud, alors un peu plus loin, Luz-la-Croix-Haute, le Trièves, et évidemment après les Alpes de Haute-Provence, on a Giono. Et sur le plateau, on a Pénac.
Vive Giono.
C'est donc un pays que j'aime. J'aime ses odeurs, j'aime sa façon d'être, mais je l'aime mieux que ce que l'aiment les faits libres. Parce que je ne peux pas, je n'aime pas qu'on en fasse un portrait ridicule. Or, le personnage du provençal hâbleur, joueur de boules, buveur de pastis, il existe, mais il existe en minorité. Et ce n'est pas sur celui-là qu'il faut porter l'accent. C'est sur un autre, sur un provençal beaucoup plus latin, beaucoup plus humain, beaucoup plus secret. Évidemment, j'en connais beaucoup plus en Haute-Provence qu'en Basse, mais je sais aussi qu'en Basse-Provence, ils sont pareils. Ils sont beaucoup plus solides que ça.
Alors, d'un mouvement tout à fait harmonieux, nous nous levâmes avec Daniel Pénac et on s'est dit, tiens, allez, on va aller du côté de la maison quand même, parce que cette maison, donc cette grosse, comme il dit, donc qui résiste au vent comme elle peut, elle résiste bien quand même. Eh bien, vous avez d'abord, vous avez un jardin, et là, c'est intéressant d'interroger Mine. C'est donc l'épouse de Daniel Pénac qui s'occupe bien de ce jardin. Vous avez des pierres, vous avez des silex, parce que le plateau a été habité il y a très longtemps, et on a retrouvé aussi pas mal de silex dans le coin. Allez, on va dans le jardin.
Tu nous rejoins, hein, Mine. Là, tu nous rejoins pour le jardin.
Mine, viens. Viens montrer le jardin de pierre.
Voilà. Et alors, ce jardin, en fait, au départ, devait y avoir rien, quoi. Ça devait pas pousser.
Alors, en attendant que le reste pousse, on a fait le jardin de pierre. On l'avait appelé comme ça, conciliabule des animaux avant l'arrivée de la Wi-Fi. Parce qu'on avait beaucoup de mal à avoir la Wi-Fi.
D'accord, donc alors, évidemment, tout ça, ce sont des formes d'animaux, ça qu'on voit une poule.
Tu vois, c'est très...
Là, il y a un dauphin qui a échoué. Là.
Il y a eu un moment, c'était une vierge à l'enfant.
La mine est en train de la relever. Alors là, nous avons effectivement davantage une vierge à l'enfant. Et si on couche le silex, eh bien nous avons un dauphin. Alors mine, lorsque vous êtes arrivé, on vous a dit, ici, il ne va rien pousser.
Rien. Rien, même on m'avait dit, on a fait le pH du coin, là, il n'y a rien, mais rien ne pousse. Il y avait un arbre, un sorbier. Alors là, c'est comme pour tout, il faut regarder. Il faut regarder et être un peu en empathie avec la nature. Et là, qu'est-ce que tu vois là? C'est une allée naturelle, seigneuriale, créée par la nature, avec des hêtres magnifiques. Et les hêtres, ils poussent en groupe, en fait.
Quelle merveille, ça.
Voilà. Et à partir de là, bah écoute, ça a été voyage dans la forêt, quoi. Dans la nature. Tu sais, ici, c'est du calcaire, c'est blanc. Et puis tout d'un coup, t'as un banc de fleurs indigo. C'est des aconites. Et c'est par banc, ça pousse par banc. C'est magnifique, c'est extrêmement vivace dans la pierre.
Et les roses trémières, je les aime beaucoup parce que ce sont des... Elles ont un côté, elles sont des aristos sauvages. Elles portent leurs fleurs comme ça, avec beaucoup de dignité, mais toutes leurs feuilles sont mitées. Elles sont en guenilles,
oui.
Elles se trimballent.
Oui, oui, elles ont une espèce de particule, mais derrière, ça ne suit pas.
Mais regarde ces graminées, je les avais plantées là-bas.
Ouais.
Elles sont venues là. Les buis. Les gens me disaient, si, les buis, ça met 100 ans à pousser. Mais j'en ai pris tout petit comme ça.
Puis, ils sont à 1 mètre, 1,50 m pour certains.
Voilà. En 20 ans, c'est-à-dire que ce que tu fais dans la vallée, on te dit qu'il faut 5 ans pour faire un jardin. Ici, je dirais qu'il faut 10-15 ans.
Puis la force de ces arbres qui, quand même, ont cherché la flotte où ils peuvent, ici, quand même.
La politique, c'est de ne pas enrichir et pas arroser. C'est-à-dire que le jardin doit se suffire à lui-même.
Ouais.
Résister à tout.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment une leçon de son vie, aussi.
C'est une terre de résistance en tout.
En tout.
Ah, alors là, on arrive sur un frêne qui a été recyclé, là.
Ouais, il était un peu malade, alors...
Il était carrément malade.
Il était carrément malade.
Pour dire un peu.
Il était carrément malade. D'abord, il ne poussait pas. Alors, ce qu'il y a d'incroyable avec les végétaux, c'est que tu leur dis, l'année prochaine, si tu ne pousses pas, je te fais ta fête.
Oui.
Alors, il a eu une poussée, comme ça, puis après, il est devenu malade, il n'avait pas sa place. On l'a coupé cette année.
Et alors, c'est devenu c'est devenu un échiquier assez étonnant. Et alors, qui est visité, Daniel? Ce qui vous donne une occupation extrêmement saine.
Oui. Il y a des oiseaux dans le ciel.
Il paraît.
Qui passent à 40 mètres au-dessus de la maison.
Oui.
Ces oiseaux chient sur notre échiquier.
Ah,
c'est extravagant. Je nettoie régulièrement et je nettoie il y a 3 jours. Et aujourd'hui, comptons les impacts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Mais si je peux me permettre, ils ne chient pas n'importe où quand même.
Voilà, ils ont chié. C'est 16 impacts autour du jeu. Ils sont en vol. Alors soit ils font du rasemote, je ne sais pas comment, statistiquement. Parce que si on peut trouver, 17 impacts de guano. D'oiseaux sur un carré de 40 cm sur 40. Imagine combien d'impact sur ce jardin d'un hectare.
C'est ça.
D'oiseaux volants.
Donc, statisticien et les probabilités sont un truc qui vont vous occuper.
Ah, ça, ben oui, je vais passer un certain temps à calculer. On va faire la péréquation entre la surface totale du jardin.
Oui. Juste rappeler une petite chose, c'est que les oiseaux, contrairement à nous, n'ont pas de sphincter.
Et non, oui, c'est pour ça que...
Donc, on ne peut pas leur en vouloir complètement.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont rarement accueillis dans la maison.
Voilà. Ne serait-ce que pour ça.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Ah, alors là, on a pénétré dans la forêt. Daniel cherche à nous perdre, dans les bois. Nous avons quitté le sentier, mais...
Avec des épicéas à mort.
Avec des épicéas. Oui, non, ils sont pas... Ils sont en bord.
Ça, c'est le propre de l'épicéa.
Oui.
De pourrir jusqu'à la taille.
C'est ça. Et après, hop, il fleurit. Il est ouvert en haut. Alors, table rase hein, sur le sol. Évidemment, acidification, donc il n'y a plus rien. Daniel, vous, lorsqu'on parle d'écologie, c'est vrai que quand on s'est connus il y a une trentaine d'années, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus prégnant. Alors, ce n'est pas forcément pour des bonnes nouvelles, c'est très souvent parce que la biodiversité est raccourcie vitesse grand V, et aussi parce qu'il y a le réchauffement climatique, et on va rajouter une couche de pollution là-dessus. Mais ça vous semble quand même quelque chose de fort, si on le ressent aussi d'ailleurs au niveau du climat.
Je sais pas, j'ai l'impression, vis-à-vis de l'écologie, j'ai l'impression d'être un monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Une part de moi fait instinctivement tout ce qu'il faut pour pas ajouter à l'entropie, ouais, et pour ne pas aggraver les dégâts. Mais c'est assez instinctif, c'est le fait qu'avec Mine nous arrivions ici, que nous nous tenions le plus immobile possible à regarder autour de nous et à reconstituer d'ailleurs ce qui se perd naturellement dans la nature, reconstituer dans le jardin.
Il y a peut-être aussi une manière de le faire savoir qui n'est pas toujours très joyeuse. On a l'impression que ça emmerde quand même beaucoup de gens, ça.
Tout ce qui fait appel au plus petit degré de conscience emmerde les gens. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de combats manifestes dans la vie. Je suis pas militant. Je n'ai pas un tempérament de militant. Mais il y a des moments où les situations sont telles qu'on ne peut que monter au créneau. En l'occurrence, en ce qui me concerne, ça n'a pas un grand rapport avec l'écologie, mais évidemment, ce sont les migrants de Méditerranée.
Bien sûr.
Là, on vient d'immobiliser l'Aquarius de SOS Méditerranée à Marseille pendant 3 semaines. 3 semaines, ça fait 700 noyés, tout simplement.
D'accord.
Qui n'auraient peut-être pas tous été récupérés par l'Aquarius, mais voilà le temps où ce bateau a été immobilisé et où, par conséquent, il n'a pas pu appliquer le simple droit maritime qui consiste à sauver les gens qui se noient, à récupérer les embarcations en perdition. 700 morts.
Ah, oh bah la voilà la cabane. Elle est pas... Alors là, elle est pas au fond du jardin, Elle est en hauteur, propriété privée, accès interdit, ça a été ouvert. Allez hop, on grimpe.
Fais gaffe.
Ouais, j'ai bien vu que c'était... C'est moi qui me prendrais un pénac sur la tête, là, si tu tombes. Hop, là. Ouais, bon.
Ah. Alors, c'est là.
Waouh.
Wow.
Ah bah oui. Spectacle de la nature.
On était ici...
C'est là que le sanglier, le chevreuil...
C'est là que le sanglier chargeait, d'autant plus qu'on mettait un bloc de sel sur ce pin là-bas. Et donc on venait observer ça, les petits étés.
Non mais c'est bien ce qu'on appelle un affût. Un affût, c'est pas que pour la chasse, hein, oui. C'est pour observer.
Et j'ai effectivement décrit ça dans le dernier Malocène.
Oui. Vous avez quand même eu besoin, dans le cas Malocène, de replanter le Benjamin et toi, dans ce Vercors. Hein.
Oui, mais j'avais surtout envie de retrouver l'écriture des Malocènes.
Oui.
L'écriture métaphorante des Malocènes me manquait. Mmh. La blague me manquait. La péripétie, enfin le romanesque ludique, quoi.
C'est ça.
Me manquait, y compris d'ailleurs stylistique. Et je suis bien puni, puisque maintenant je suis dans le deuxième tome,
être condamné.
Je suis bloqué, surtout, je n'y arrive pas. Je suis dans un trou, ce qui m'est arrivé très souvent dans ma vie.
C'est ça.
Mais à chaque fois que ça m'arrive, j'ai l'impression que c'est pour l'éternité, que c'est fini, que je n'écrirai plus jamais, que les carottes sont cuites et que le bonhomme est paralysé.
Donc là, vous êtes dans une espèce de cialet, quoi.
Je suis dans un cialet, je suis tombé dans un cialet.
Cialet
et il n'y a pas de chez sous pour m'en tirer.
Bah, je ne vais pas vous enfoncer, en tout cas. Je vais vous donner la main, mais enfin, vous savez, c'est tout ce que je peux,
ce que je peux faire. Alors, les oiseaux sont plus matinaux que nous.
Ah oui.
Et puis ils sont pas idiots, quand il fait chaud, ils se cachent.
Non, tandis que nous,
on fait des interviews ridicules.
En fait, quand on est sur ce plateau, vous me disiez, ici sur le plateau de Vassieux, on n'attend rien.
Oui, on est arrivé. À chaque fois que je viens, dès que j'ouvre mes fenêtres le lendemain matin, je me dis ça y est, je suis arrivé.
Non, il y a un côté un peu André Breton lorsqu'il a découvert Saint-Cyr-la-Popie. Il s'est dit, moi, j'ai cessé de me rêver ailleurs, ce qui est une très jolie phrase. Bah, vous, c'est ici.
Oui, c'est ici, oui, il n'y a pas de doute.
Rassure, il écrit la suite du Camalocène. J'ai eu tout à l'heure au téléphone, il déjeunait après, donc il s'y remettait, Daniel Pénac. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas simple. Non, voilà, donc merci à lui pour cette balade tournée il y a un mois, hein, donc chez lui dans le Vercors. Il fait beau, et je vous dis, quand ça se met à tomber là-haut, c'est aussi tout à fait intéressant. Messieurs, toujours là, Arnaud Gossman, Frédéric Danhé, on va pas parler du Nord, là. Juste un petit mot sur les sols.
Ben,
les
sols.
Une petite actualité, là.
Oui, ben, il y a plein d'actualités. On en parle beaucoup sur les Mayas, des pluies, l'Indra. Mais j'ai pas envie de vous parler de ça. J'ai envie de me raccrocher à ce que voulait Nicolas Hulot, c'est-à-dire désartificialiser les sols. Le problème en France, c'est qu'on sait pas vraiment ce que c'est que l'artificialisation. On a un problème de cartographie. Il y a des marges d'erreur considérables. Ce qui profite à tous les lobbies d'aménageurs en disant, mais on sait pas. Sauf que, ben, il y a des régions qui ont pris les choses en main. La région Normandie.
Ne bouillez pas, Arnaud. Allez, oui.
Voilà, la région Normandie, en accord avec la SAFER, vous savez, la structure qui gère le foncier agricole, et un chercheur qui s'appelle Patrick Legouy, ont créé il y a 10 ans un observatoire qui est suffisamment précis, au 1/2000, pour servir aujourd'hui de base à tous les documents d'urbanisme et à tous les documents de planification, ce qui permet premièrement de constater que le rythme d'artificialisation a été divisé par 2 en 10 ans, ce qui permet de constater que, contrairement aux apparences, il y a beaucoup moins de logements individuels éparpillés, autrement dit que la question des sols commence à être prise en compte par les pouvoirs publics et en particulier par les élus. Là, c'est le rapport qu'ils ont rendu dans leur Assemblée Générale fin juin. Moi, ça me réjouit et c'est une région qui a pris les choses
en main.
Et
c'est pour ça aussi que va ressortir, je crois, améliorer, cessons de ruiner notre livre,
édition Revue Augmentée au mois d'octobre.
Voilà. Alors, un petit mot, je ne sais pas, peut-être de fin, Arnaud Gossman. On n'a peut-être pas le temps de partir sur les lobbies. Je vous assure qu'on la fera, l'émission.
Avec plaisir.
Là-dessus, parce que c'est costaud. Quoi, comme
non, ce qui est dommage, pour revenir à Nicolas Hulot, c'est que c'est vrai qu'il a annoncé cet objectif de zéro artificialisation des sols, qui en réalité existait déjà dans notre droit. C'était un très beau chantier. Et en fait, pendant ces 15 mois, il a lancé beaucoup de chantiers.
Et ouais, pas abouti.
Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il ne puisse pas les mener à son terme. Mais ce chantier-là qu'il a ouvert sur les sols est un chantier absolument fondamental, puisque le juriste, lui, sait que le droit de l'environnement parle beaucoup de l'air, de ce qu'il y a à la surface des sols, mais très peu du sol lui-même, qui pourtant capte 80% du vivant. Et c'était un sujet pourtant méconnu pour les juristes et les législateurs. Et c'est un chantier qu'il faudra reprendre, j'espère.
Bon, bah écoutez, on vous souhaite le meilleur. Et puis, vous revenez aussi pour des décryptages d'actualité tout à fait prochainement. Voilà. Donc, on va se quitter tranquillement pour cette première émission qui était quand même le baptême du feu de Marie-Hélène Fauquet, notre réalisatrice. Voilà. Alors, nous étions dans cette très jolie Drôme avec Daniel Pénac. Et je tiens aussi à remercier Lucas Vaillant qui a mixé donc ce reportage sur des musiques choisies par Marie-Hélène Fauquet. Merci à Pierre Faucillon et Thierry Dupin donc, qui a choisi les disques. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors, sur le site, vous verrez, il y a une petite vidéo, sûrement un peu maladroite, hein, qui fait 2 minutes parce que voilà, c'est fait avec ce que nous faisons tous, nos merveilles
milieu smartphone. Et, mais vous verrez quand même Pénac. Hein, voilà. Et puis on aura cette semaine aussi l'installation d'un petit diaporama. On se retrouve la semaine prochaine. Le répondeur, allez, c'est reparti, 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. Possibilité donc de réécouter l'émission, le podcast, et puis la rediffusion entre 5h et 6h du matin. Les petits bateaux, c'est une chose. L'as-tu lu, mon petit loup, derrière? Eh ben oui, ça continue, ça reprend. Ce sera dimanche à 19h54. Je vous souhaite un excellent week-end.